Hey, bonsoir tout le monde et bienvenue au 32e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec Grappler's Quest, l'organisation américaine qui promouvoit les sports de lutte de soumission. Ça s'en ressemble beaucoup, mais nous, on n'a pas besoin d'une organisation pour se trouver des raisons de faire des prises de soumission. Juste d'un safe word.
Oh!
Bonsoir, je suis Mathieu Bonin, toujours en compagnie de Danny Gravel.
Salut!
Et de notre correspondant en Égypte, Jean-François Laporte.
Ici même.
Fait que comment ça va, les gars?
Ben, tu sais.
Ça serait bizarre que vous ayez plus mal que v'là une heure quand on enregistrait l'autre épisode.
Tu sais, Divan Quest a exactement le même nombre d'épisodes que nous, Danny. Fait que c'est un achievement.
Ah, c'est plate, ça. Fait que, hey, c'est qu'est-ce ça. Que vous avez fait de bon cette semaine? Toi, Dan?
Ben, au moment de préparer le pod, j'en suis à la fin, exactement, à la journée qui finit, la première semaine avec les élèves. Donc, ma semaine aurait été pas mal sous le signe de... Je sais que ça coupe au mauvais moment. Mais non, pas le jeu, en fait, juste la soundtrack. Parce que quand t'as comme 2000 affaires à préparer pour ta job, tu t'isoles dans un univers où il n'y a rien qui va te déranger. Dans mon cas, ça implique des écouteurs, de la musique de jeu. Puis Shovel Knight était pas mal ma go-to soundtrack cette semaine.
Ah ben, je vais peut-être en avoir un autre à te suggérer au courant de l'épisode.
J'ai hâte pour vrai. J'allais dire quelque chose qui avait l'air comme « Oh, j'ai tellement hâte », mais c'est pas vrai, j'ai hâte. On s'est tapé en rafale la 6e saison de Game of Thrones, moi et ma blonde, en fin de semaine passée. Donc, vous pouvez officiellement plus rien me spoiler, mais vous en faites pas de mon côté, je vais pas vous spoiler sur rien dans le podcast. Mais en même temps, il faut quand même avouer que le bout où est-ce qu'il y a un personnage qui meurt est assez inattendu. Là. Pour le reste, pour le reste du temps libre que j'ai eu, comme la semaine passée, j'ai été plutôt occupé à tapocher les démons. Hein, je vous ferai bien un update de mon level puis de mon gear, mais ce serait mauditement pas à jour quand le podcast va sortir, genre deux semaines après qu'on l'a enregistré. Donc, ouais. Je garde ça pour moi. Hein, c'est ça. Si ça vous intéresse, vous me chercherez là.
Tabarnak. C'est juste que je fais là. C'est ouais, c'est chier.
Sinon, je reviens aussi sur quelque chose qui date d'aujourd'hui. Là. Je suis en train d'écouter ça justement en me déplaçant vers l'enregistrement. Je reviens sur mon man crush du moment, M. Kevin Smith, qui a enregistré il y a quelques semaines pour vous un petit mini épisode de Babylon spécial où il se faisait lire en fait par son co-animateur les pires reviews de son dernier film, là, Yoga Hoser, qui dans le fond, ils en font un peu un gag. Mais en dehors de ça, je dois avouer que ça prend des solides cojones là, pour te faire prendre en pleine face les mauvais reviews d'un truc que tu as mis tout ton cœur à faire. Et ce, sans préparation, là, à frette, pas de loupe, rien. Là. Il les a pas lus avant, c'est comme direct d'en face. Puis pour ça, je vais dire un beau chapeau. Hein. Si tout le monde faisait ça avec autant de avec autant d'humilité, je pense que les gens seraient peut-être... je sais pas, le monde serait meilleur.
Le monde aurait un peu moins une thin skin. Le monde se laisserait moins affecté, puis on s'en porterait tous mieux.
Pis c'est super intéressant parce qu'il y a plein de fois où il se dit ben, OK, je peux comprendre que quelqu'un pense ça. Je suis pas d'accord, mais je peux comprendre son point de vue. Puis ça, c'est... Caroline, quelqu'un qui a de prendre la critique avec cet aspect-là, si tout le monde pouvait faire ça, là, ça serait beaucoup plus facile d'offrir des critiques constructives sans avoir peur de blesser quelqu'un.
Monsieur Smith a des années de pratique.
Oui, j'avoue, mais quand même. T'sais, voilà. Hein? Sinon, tranquille, là, c'est ça qui arrive quand tu joues à WoW et que le premier raid sort demain pour vous. En tout cas, voilà. Hein? Toi, Matt?
Je vais sûrement avoir joué beaucoup à Recore cette semaine, puisque c'est sorti la semaine dernière. Mais bon, au moment de l'enregistrement, il n'est pas encore sorti, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir jouer, fait que on en parlera plus tard. Mais par contre, je peux vous suggérer deux petites choses que j'ai croisées sur mon chemin sur les interwebs. Si vous avez écouté, on n'a pas vraiment parlé sur le pod de Stranger Things, la série télé de Netflix. Puis j'en reviens pas qu'on n'ait pas parlé parce qu'on a tous les trois adoré ça.
Peut-être question de spoilers, on veut faire attention.
Ouais, mais bref, ceux que ça intéresse l'auront probablement déjà vu, mais bref, c'est une série qui est plongée dans l'univers des années 80. Et il y a quelqu'un qui a fait un petit tribute du nom du Stranger Things Adventure Game Tribute, qui est une reproduction d'une des scènes du premier épisode, mais en style de jeu d'aventure de LucasArts. J'aurais dit de Lucasfilm Games, vu qu'on parle au début des années 90. Puis ça reproduit très, très bien l'atmosphère. C'est très cool. Ça prend une dizaine de minutes, là, c'est fort sympathique. On va le partager sur les médias sociaux. Ah oui. Sinon, cherchez juste Stranger Things Adventure Game Tribute. C'est sympathique.
On est allé parler du vidéo Stranger Pugs, où est-ce qu'il y a quelqu'un qui a habillé des pugs comme plusieurs personnages de la série?
Non. Et l'autre petit jeu que j'ai essayé, qui est plus plus de complexité, mais qui n'est pas tellement long non plus, c'est environ une demi-heure, s'appelle The House Abandoned, qui est un jeu d'aventure texte, mais je ne veux pas rien vendre, mais c'est un jeu d'horreur. Sous la forme d'un jeu d'aventure texte, le jeu nous présente en fait un vieil écran d'ordinateur monochrome avec un clavier, puis l'espace de bureau, puis... Bref, considérez juste que tout ce que vous voyez fait partie du jeu d'aventure. Donc, on parle un petit peu d'un méta-jeu d'aventure.
OK.
J'en dirai pas plus. C'est un téléchargement gratuit qui a été fait dans le cadre d'un Game Jam, donc en 3 jours. Très, très beau petit produit. Très intéressant pour si peu de temps. Ça aussi, on va mettre le lien. Mais sinon, cherchez The House Abandoned. Puis, il est disponible sur itch.io, qui est un répositoire de plein, plein de jeux et d'expériences. Toi, Jeff?
Ah ben écoute, c'est la continuité de la saison de hockey égyptienne ici. la fiche de défaite du Canadien continue à augmenter.
Malheureusement.
je m'aperçois que je suis un très très mauvais joueur de NHL, sérieux. C'est pitoyable. non, mais sinon, je fais vivre le divan co-op de Divan Quest ici, justement avec Alex, là, mon collègue avec qui je travaille là, en Égypte, où on est en train de se refaire Diablo 2, finalement, du début. Fait qu'on on a atteint l'acte 2 cette semaine.
Deux, là? Pas 3, 2.
Diablo 3, pardon, Diablo 3.
Je trouvais rétro.
T'as l'acte 2 de Diablo 3. Non, sur PlayStation. Donc, Diablo 3, que j'ai jamais fini terminer. Fait qu'on s'est donné comme défi qu'on allait le terminer pendant notre séjour ici.
Ça vaut la peine.
On a aussi revisité en co-op Broforce, qu'on a déjà parlé sur le podcast. Yeah. Qui est toujours aussi
drôle.
Comment
t'as dit ça, Jeff? Comment?
Broforce. Mes excuses. sinon, cette semaine, j'ai joué à un petit jeu, un jeu indie qui est sorti cet été, qui s'appelle Hyper Light Drifter. Puis c'est un jeu qui avait été super bien là, reçu par les critiques, qui était encensé par pas mal toutes les critiques partout, sauf par moi, on dirait.
D'après moi, t'as juste comme tout utilisé ton jus sur Witcher 3, ouais, fait que t'avais ça. Comme plus d'amour à donner à Hyper Light.
C'est clair, j'ai encore passé beaucoup de temps sur Witcher, mais peut-être que c'est parce que j'ai pas pris assez de sérieux, peut-être que j'ai pas mis assez de temps, mais il y a quelque chose dans Hyper Light Drifter qui vient pas me chercher, puis c'est quelque chose qui vient pas me chercher dans tous les jeux comme ça. Il y a un super beau visuel, pixel art à la grandeur, puis on dirait que c'est ça qui me déconnecte. Je l'admets pour la beauté, mais dans le jeu, je trouve que des jeux avec un look pixel art comme ça, ça rend difficile de différencier qu'est-ce qui est le background, qu'est-ce qui est en avant. Puis on dirait que ça vient que ça me tanne de toujours avoir de la difficulté à savoir où aller. Puis c'est un jeu où il n'y a aucun texte. Donc toutes les conversations des NPC sont des images pixelisées.
Comme des hiéroglyphes?
Non, c'est vraiment comme des. Oh. C'est une scène d'un jeu, comme une image. Puis je viens de comprendre la
référence. C'est le lag de Sky.
C'est ça, c'est le décalage horaire. On s'en reprend dans 6 heures.
Mais... il va en trouver bonne dans 6 heures.
En fait, si ton érection dure plus que 6 heures, tu consommes trop de temps.
Je vais changer de pilule. Non, mais toutes les quêtes, les dialogues sont amenés à travers les images qui sont un petit peu cryptiques des fois, puis difficiles à comprendre. Puis ça m'a fait décrocher de la même façon que j'ai décroché de Super Brothers Sword and Sorcery.
Mm-hmm. Ouais, mais ils ont un look semblable là, de pixels hyper crisp qui n'est pas forcément bien construit pour communiquer de l'information aux joueurs.
Exactement. Puis je sais pas, c'est quelque chose qui me fait souvent décrocher rapidement. On dirait que j'ai pas envie de continuer, je m'étends rapidement. Mais le jeu était super bien reçu. Fait que je suppose que si on y met le temps, il y a quelque chose. C'est juste un jeu qui n'est pas pour moi. Mais c'est ça. Hein? On peut pas tous les aimer, les jeux qu'on essaye.
Ben voilà.
C'était ma semaine.
J'avais oublié de mentionner une annonce importante de l'événement Apple dans l'activité lors de la semaine dernière.
C'est plus important que la toilette, là?
Oui, ben tu sais, c'est ça, c'est la semaine dernière, le temps passe tellement vite. Fait que pour accompagner la nouvelle Apple Watch bol de toilette, justement, le jeu qu'on devrait presque classer maintenant de rétro, Pokémon Go, sera disponible sur la fameuse montre. Si un jour je cherche un exemple de produit qui à la fois manque le bateau et manque son public cible, je pourrais pointer vers la version Apple Watch de Pokémon Go, là. Mais bon, en date de vendredi dernier, à la sortie du pod, l'accessoire Pokémon Go Plus est finalement disponible. Fait que pour ceux qui seraient pas au courant, c'est un petit bidule qui a la forme d'un marker Google Maps, mais avec les couleurs d'une Pokéball. Son utilité? Ben, selon la description sur le site officiel, elle permet de jouer sans interagir avec votre téléphone. Quand vous approchez d'un Pokéstop, l'appareil vibrera pour vous et vous pourrez récupérer son contenu en appuyant sur l'unique bouton de l'appareil. Et quand un Pokémon apparaîtra à votre portée, l'appareil vibrera et vous pourrez appuyer sur le bouton pour tenter de l'attraper. Une séquence de lumière et de vibration vous indiquera si vous l'avez attrapé ou si vous devez appuyer sur le bouton de nouveau. Vous pourriez penser que la fonction de l'appareil est de retirer tout l'intérêt du jeu en remplaçant toutes les directions par un piton, en sachant plus ou moins ce qui se passe quand vous pèsez dessus. Mais détrompez-vous! La fonction principale de l'appareil est de coûter 35$ et de faire plus d'argent à Nintendo et ses amis.
Mais quand tu parlais de manquer le bateau et manquer son public, là...
Ouais, non, mais écoute, c'est parce qu'on fait de la radio right now, là, mais j'imagine le diagramme de Venn, OK? Ça, c'est des ronds qui se croisent, là. T'as le monde qui joue à Pokémon Go, t'as le monde qui joue encore à Pokémon Go, t'as le monde qui joue à Pokémon Go sur un iPhone, t'as le monde qui ont une iWatch, tu sais... Je suis sûr qu'il y a 4 personnes qui sont vraiment contentes de cette annonce-là.
Mais moi, je parlais même pas de ça. Je parlais du Pokémon Go Plus, là. Parce que lui-ci, il est sorti comme 2 mois trop tard, là. Parce qu'il y a 2 mois, mon gars, là, ça se serait vendu là, à pelleter. Puis là, ben voilà.
Il y a des rumeurs, là, on dérape, là, mais il y a des rumeurs qui disent que ce qui a retardé la sortie, c'est qu'il n'y avait pas vraiment d'utilité au produit. Le produit était conçu sans être vraiment intégré au logiciel. Puis c'est comme, bah, OK, on a un bidule Bluetooth que il peut vibrer, puis il y a des lumières, puis un piton. Okay.
Fait, il sert réellement juste à faire 35$, finalement.
Oui. C'est le DLC le plus cher ever. Là. Ouais. Parce qu'il y a bien du monde que, encore une fois, là, tout ce segment-là va être désuet, là, parce qu'on va finir par le savoir. Mais un des problèmes du jeu, c'est qu'il ne peut pas rouler en arrière-plan. Puis le monde espérait qu'avec cette bidule-là, il puisse comme, transmettre l'information de tes déplacements, etc. Bon. Et éviter de brûler ta batterie comme un enragé. Sauf que là, maintenant, tu rajoutes le poids d'un appareil Bluetooth de connecter à ton téléphone pour drainer ta batterie encore plus. Bref. Le temps nous le dira, là, mais pour l'instant, ça a juste l'air d'une micro-transaction de 35$. On passe à d'autres choses. Google, ou en fait Alphabet, la compagnie mère de Google maintenant, s'est associée à la chaîne de restauration rapide Chipotle pour tester la livraison par drone aux étudiants de la Virginia Tech. Le projet AlphaWing d'Alphabet, responsable de cette association, est d'ailleurs un des premiers projets commerciaux autorisés par la US Federal Aviation Authority. Les drones seront des drones en fait hybrides, capables à la fois de vol à la manière d'un avion et de flotter sur place, comme la plupart des drones qu'on voit sur le marché, seront envoyés à partir d'un camion qui patrouillera sur le campus. Il sera donc possible de se faire livrer des burritos envoyés de ce porte-avions des routes par des drones et directement dans les mains des étudiants de la Virginia Tech qui ont les munchies. Il y a plusieurs difficultés techniques à surmonter, note Timothy Sands, le président de la Virginia Tech. Il faut s'assurer de la capacité du drone à supporter le poids du burrito. S'assurer que le burrito ne se refroidira pas trop. Mais je doute absolument pas de la capacité du projet de réussir. Ce ne sera pas la première fois que des drones sont utilisés pour livrer des armes biochimiques. Je n'ai même pas pensé au drop. Finalement, tel que noté par le redditeur Sammy Your Daddy, en tout cas, on ne s'arrêtera pas à ça, saviez-vous que le 10 septembre dernier, nous avions traversé le Half-Life Tipping Point?
Oh,
je m'explique. Ben oui. Le comic XKCD numéro 1477 a présenté le Tipping Point de Star Wars comme étant le 13 mai 2015. C'est la journée où il s'est écoulé plus de temps depuis la sortie de Star Wars épisode 1 de Phantom Menace et aujourd'hui qu'il s'en était écoulé entre la sortie de Return of the Jedi et de Phantom Menace. Eh bien, le 10 septembre dernier, il s'est écoulé 3258 jours, ça c'est plus de 9 ans, depuis la sortie de Half-Life 2 épisode 2, le dernier contenu produit pour Half-Life, soit le même nombre de jours qu'entre la sortie de Half-Life et celle de Half-Life 2, épisode 2. Ça fait plaisir de vous faire vous sentir vieux.
Donc, c'est un grand jour aujourd'hui pour Divan Quest. Hein, c'est à mon tour de parler d'un jeu que je qualifierais d'hidden gem, probablement, de petit bijou caché parmi les centaines de jeux de PS1. Qui existe dans ce bas monde. Je parle d'un jeu que j'aime bien, mais que je dois avouer que ma blonde adore particulièrement. Je parle ici de Top Shop. À ne pas confondre avec Top Shop, le magasin là, de linge qui me fait penser, dans le fond, à ce jeu-là à chaque fois que je le vois, là, finalement. Ouais. Donc, Top Shop, jeu capitaliste, là, s'il en est un, c'est un board game développé par Kid, Kindle, quelque chose, design, là, j'ai oublié, peu importe. Et publié en Amérique par Edge Tech. Ben oui, on parle de développeurs hyper connus, là, qui ont fait des gros, gros succès. En parlant de Kid, mettons, là, si on regarde la liste, j'ai reconnu deux jeux. J'ai reconnu Low G-Man, puis G.I. Oh. Joe au NES.
Et bon, ah, G.I. Joe, c'était pas pire au NES.
Donc, on parle de... C'est ce que j'ai de plus reconnaissable. Ben, peut-être que je me trompe, là, mais moi, c'est ce que j'ai reconnu. Donc, pour quelle raison... J'aurais choisi de parler d'un board game sorti sur PS1 en 2001. Ben, parce que c'est fucking awesome. C'est quoi Top Shop? Imaginez-vous l'enfant illégitime de Monsieur Monopoly et d'un personnage d'animé japonais, puis vous allez être assez proche. Donc, c'est un board game dans lequel de 2 à 6 joueurs, support multitap en passant, mais on peut aussi jouer avec juste une manette qu'on va prendre à tour de rôle. Là. Donc, vont s'affronter pour posséder le plus de boutiques possible, oui, dans un des 8 différents centres commerciaux disponibles pour jouer. Le but va être d'atteindre un certain montant d'argent, là, mais genre argent, valeur mobilière et tout ça. Donc, la carte se présente un peu comme une vue en coupe d'un centre commercial où est-ce qu'on va retrouver plusieurs étages, plusieurs sections, qui contient un paquet d'emplacements de boutiques vides, finalement. On va avancer en roulant un crayon qui a des faces numérotées de 1 à 8, puis avec aussi un E. Le crayon nous fait avancer des espaces. Le E, c'est un peu comme pour ajouter des éléments un peu random. Là, comme des...
on roule un crayon?
Oui, un crayon.
OK.
Oui, un crayon.
OK.
Non, je cherche pas le lien, Mathieu.
Non, c'est parce que tu faisais des lapsus de nombre de cas dans Phoenix Wright il y a 2 semaines.
Non, c'est un crayon. Tu roules vraiment un crayon. C'est pas comme un B, un crayon, je fais pas. Non, c'est un crayon. J'ai assez joué. Il est vert.
On met le scanner à couleur, par exemple.
Il y a aussi un E sur le crayon, oui, qui est un peu pour avoir des événements un peu plus random. Là. C'est un peu comme tirer une carte chance. En fait, quand tu pognes le E, il va t'apparaître 3 cartes face cachée. T'en choisis une, puis il va y avoir des événements qui vont se produire. Le genre, tu peux gagner, perdre de l'argent. Les items peuvent être en vente dans les magasins, donc tu fais moins d'argent quand tu les vends. Les magasins peuvent être complètement fermés. Une couple d'autres trucs comme ça, puis qui va amener un événement un peu plus random. Des fois, c'est drôle. Tu fais ça, puis t'es comme, ah, yeah, un événement, puis ah, une carte, puis t'as fait avancer de 3 espaces. T'es comme, fuck, c'est inutile. Mais bon, hein, c'est un peu ça. Sinon, ben tu vas te promener sur ta carte, qui est un background statique, là, avec... dans le fond, des personnages de jeu. Il y en a 11 au total. Là. Au début, quand tu commences le jeu, ils ne sont pas tous disponibles. Il faut les débloquer. Il y en a quelques-uns à débloquer que tu débloques en faisant le tour du jeu, finalement. Puis, les personnages là, sortent directement d'un animé japonais. Là. Tu vas retrouver les classiques Schoolgirl puis le gars qui s'appelle Bro là, qui a l'air de sortir direct d'un porn des années 80 avec sa grosse moustache. T'as le kid qui se prend pour un magicien puis qui a la morve au nez. T'as l'autre qui se prend une skate. T'as une télé. T'as un cactus qui a des roulettes sur son pot. En tout cas, c'est des choses normales là, pour l'univers japonais. Donc, on a des personnages qui sont quand même très très cute avec des animations assez limitées quand même. Là. Donc, t'arrives, en fait, quand tu joues, ben, t'arrives dans un espace vide, tu peux, oui, acheter une boutique. T'as généralement un choix qui va varier dépendant de ta section où est-ce que t'es. Les magasins sont quand même variés. Là. Ça va du magasin de bonbons au restaurant italien en passant par le magasin de pièces d'auto ou d'instruments de musique. Sans oublier ma boutique préférée, la boutique Esthétique Julia. Je vais revenir tantôt de mon amour inconditionnel pour la boutique de Julia dans quelques petits instants quand je parlerai des items qu'on y retrouve.
OK. Mmh.
Je vois que je t'intéresse.
Ça n'a pas rapport avec la boutique.
Ça arrive quand on va juste 2 potes de suite. Si t'arrives dans une boutique vide qui est à côté d'une boutique qui t'appartient, dans le fond, tu peux ouvrir une succursale plus grosse, si on veut, qui va te permettre d'agrandir ta boutique puis d'avoir plus d'items à l'intérieur puis des items qui se vendent plus cher. Puis comme on est capitaliste, on aime ça. Si tu arrives sur une boutique occupée, ben faut que tu achètes un des items de la personne à qui appartient la boutique. L'argent se transfère. Ça arrive que tu as un remboursement, par contre, pour un item probablement défectueux. Puis là aussi, il y a plein de blagues à faire avec ça. Puis, en gros, c'est un peu l'idée. Tu sais, c'est de base assez simple. Les items qu'on retrouve dans les boutiques sont toujours thématiquement appropriés, puis souvent assez amusants, je dirais. Genre, tu vas acheter des Kleenex ou shampoing de la pâte à dents à la pharmacie, tu sais, ça fit. Tu peux acheter des castagnettes chez Yamato Music, parce que tout le monde veut des castagnettes.
Ben, juste celle de Yamato.
Yamato, les autres.
Yamato, ouais. Ben oui.
Les autres, ça vaut rien. Hein.
Les hosties de bonnes castagnettes.
Sinon, tu peux aller chez la boutique que j'appelle Prosthétique Julia, puis acheter des bras, des jambes et des torses.
Nice!
Mais en fait, c'est Esthétique Julia, mais c'est devenu dans notre langage commun Prosthétique Julia, puis t'achètes des jambes, des bras et des torses. C'est beaucoup plus amusant. Donc, le fun va commencer, dans le fond, quand on se rend compte qu'un magasin est vide. Tu peux le voler, dans le fond, puis le transformer en un de tes magasins à toi. Fait que le but, c'est vraiment ça, de voler les magasins des autres. Tu arrives dans un magasin, dans le fond, qui t'appartient. Tu peux restocker, mettre des items dans n'importe lequel de tes magasins, là, pas nécessairement celui où, ce que tu, où tu te trouves, pour éviter de te le faire voler. Fait que, tu sais, l'idée, c'est ça. Tu développes une flotte de magasins, tu mets des items dedans qui sont de plus en plus chers, puis tu t'arranges pour que les gens les achètent, puis te donnent de l'argent. C'est... la base assez simple, là, c'est le côté qui rejoint un peu Monopoly, mais avec un petit visuel d'animé, puis aussi d'autres éléments qui rendent le jeu vraiment intéressant. Là, c'est sûr que le gameplay, c'est on achète, on vend. Et de temps en temps, il y a des bouts un peu random. Tu as un remboursement, tu achètes un item. Puis bon. Mais en fait, c'est ça. Sinon, en dehors de ça, au niveau gameplay, quand tu achètes des items, tu ramasses des points que tu peux accumuler, puis qui vont te servir quand tu repasses à la banque, là, un genre de go, là, si on veut, comme dans Monopoly. Mais où, au lieu d'avoir un traditionnel 200$, ben, tu as un montant d'argent qui augmente selon le nombre de tours. Là. Fait que ça peut quand même aller assez rapidement. Puis les points te permettent d'acheter des trucs dedans, comme bon, avoir un magasin gratuitement au hasard, fermer le magasin de quelqu'un, restocker des items. Tu peux faire des affaires qui t'aident ou qui attaquent un peu les autres. Là.
Je m'excuse, je viens d'avoir un flash.
Yes.
Je me rappelle avoir joué au jeu au cégep, mm-hmm, dans notre mm-hmm. temps au cégep.
J'y reviens.
Bien sûr. Mais depuis ce temps-là, en Amérique, on n'avait jamais eu de jeu de la série Fortune Street qui était sur les plateformes de Nintendo, développé par Square. Top Shop, c'est Fortune Street dans un centre d'achat.
Je connais pas.
Fait que pour ceux qui veulent mieux figurer là, les mécaniques de jeu, si vous avez joué à Fortune Street, ça oui, là, c'est le même concept. Sauf que c'est une version verticale dans un centre d'achat, puis avec évidemment un enrobage puis certains thèmes différents, mais c'est. Les mécaniques sont les mêmes. Là.
Ben tu m'intéresses, je vais jeter un coup d'œil.
Ben, en fait, je peux même aller plus loin que ça dans ton champ d'intérêt. Y a une série de jeux qui s'appelle Cold Sep. Et en Xbox 360, il y avait Cold Sep Saga. Prends ces mécaniques-là, mixe ça avec un RPG puis un jeu de card collecting.
Ça, bye!
C'est, on en reparlera. Oh, ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que Fortune Street et tous ses descendants seront familiers pour les fans de Top Shop.
Voilà, donc c'est un peu ce qui se passe. Avec les points aussi, tu peux en accumuler 99 puis juste comme gagner la partie. Mais c'est pas une stratégie qui est vraiment recommandable. C'est très très long puis. Il n'est pas là le fun. C'est pour vrai, c'est pas ça. Donc, à tour de rôle, ben, c'est ça. On roule notre crayon, on vit notre vie de capitaliste. Puis voilà. Chaque tour va correspondre à un mois dans le fond d'une année. Fait que, y a une petite animation à chaque mois qui est vraiment très laide avec des images très, très pixelisées, mais assez attachantes aussi. On finit par développer. Et que dire aussi de la musique qui accompagne ce jeu? Ça nous laissera sans mots. Hein, j'ai fait un petit medley ici de quelques-unes des chansons qui jouent en boucle. En boucle et en boucle, chacune dans leur tableau respectif. Encore là? Oui.
C'est un peu agressant pour les oreilles.
Oui, je sais. J'entends les sceptiques encore demander justement pour quelle raison on devrait jouer à ça, surtout avec la musique. Je dirais que la musique souvent se faisait couper à la maison et accompagnée d'une soundtrack plus intéressante. Bref, pourquoi on devrait jouer ça à la place de déballer le nouveau Ticket to Ride Pennsylvania, je pense, qui vient de sortir récemment? Ben, trois mots. Shrip, shoes. C'est un item qu'on peut se pogner soit par hasard, dans les cartes là, d'événements, ou s'acheter avec les points de la banque, qui fait que notre personnage, quand il se déplace, au lieu de faire des petits bruits de pas, fait, dans le fond, chacun de ses pas sera ponctué du mignon petit gazouillis d'un poussin.
c'est un system seller drette là. T'as pas de PlayStation, tu l'achètes, t'achètes le jeu, t'achètes les chip shoes.
Voilà. Ces jolies petites sandales avec un canard dessus, on les voit comme quand tu les... Tu les obtiens par la carte d'événement, démontre un peu le côté ridicule de Top Shop et très rigolo. Je dirais, on dirait que je fais une review joke, là, que c'est un jeu qui est poche, là, puis c'est sûr que, vite dit de même, ça transmet pas tout ce que c'est Top Shop, mais réellement, c'est un jeu que je porte dans mon cœur et pour vrai. Là. Je connais pas grand monde qui ont joué et qui n'ont pas aimé. ce jeu-là. Puis c'est ça Top Shop pour moi. Il y a un petit côté de nostalgie qui me rappelle les nombreuses games que j'ai jouées au cégep, justement, comme tu disais, Mathieu, avec la gang du club d'animation japonaise. Les nombreuses games que j'ai jouées avec les chums à l'université quand on n'avait pas de maudite scène, qu'on se pognait un six-pack et qu'on jouait à Top Shop. Les nombreuses games jouées avec ma blonde qui aime beaucoup, beaucoup ce jeu-là. Donc on s'assoit sur le divan en pyjama un samedi matin avec un café, possiblement Baileys, puis on joue une game de Top Shop. Tu sais, c'est ça. Puis avec tout ce beau monde-là, c'est des jokes de mauvais goût sur le fait que Bro a l'air de sortir d'un porn avec sa moustache. Les gags d'aller à la pharmacie, d'acheter des mouchoirs puis de la lotion. Parce que tu peux acheter deux items. Tu fais comme fuck, j'achète deux items juste pour le gag. Le fait d'acheter des bras puis des jambes chez Prosthétique Julia. Tu rends le jeu ridicule parce qu'il y a comme un élément de mauvaise traduction qui te permet de faire des gags comme à l'infini. C'est un jeu qui procure un fun fou en gang sur un divan. Puis c'est pour ça que je vais donner trois solides pattes, mais d'un vrai divan orange de sous-sol. Il y a trois pattes parce qu'il y en a une qui est pétée. La quatrième, ben, on n'est pas sûr où est-ce qu'elle est rendue, puis on va en trouver une. Pour s'installer avec une bière, avec ses chums, avec ses sandales de poussin. Fait que les gars, je finis ça avec un challenge de ma blonde, officiellement, là, pour qu'on s'affronte, vos blondes, vous autres, puis nous deux, pour un free-for-all de Top Shop au retour de Yeffé l'Égyptien.
Accepté.
Accepté.
Réflexion.
Réflexion.
Sur la semaine, donc dans un tout autre ordre d'esprit, une réflexion sur le Sahara. au moment de la disponibilité de l'épisode, en fait, ça va faire un mois que j'ai quitté mon petit 4,5 de Repentigny en destination du Caire. Hein. Donc, villa immense, piscine creusée, chauffeur personnel, homme à tout faire, que de sacrifices pour mon travail. Mais... Merci. Donc, il faut bien en profiter un peu. Hein. Il n'y a pas juste le travail dans la vie. Fait qu'évidemment, il y a des arrêts qui sont incontournables. Donc, les pyramides, le musée du Caire, par exemple, qui témoignent de l'ingéniosité, puis de la puissance, puis de la richesse d'une culture qui est éteinte depuis des milliers d'années. Donc, on dit que le voyage forge la jeunesse, mais je préfère les mots de Frank Herbert dans Dune, en fait. I'll miss the sea. But a person needs new experiences. They jar something deep inside, allowing him to grow. Without change, something sleeps inside us and seldom awakens. Sérieusement, de se tenir debout sur des structures qui ont été érigées parfois jusqu'à 4000 ans avant la naissance de GC, ça nous laisse un sentiment... non, Christ. ça nous laisse un sentiment d'insignifiance qui pèse de tout le poids historique de l'endroit sur nos épaules. C'est le même poids historique qui est omniprésent. Quand je suis allé visiter le quartier copte, en fait, les coptes étant les habitants chrétiens de l'Égypte ancienne, c'est dans ce quartier-là qu'on retrouve plusieurs monuments puis lieux importants de la foi chrétienne, entre autres l'église suspendue, qui est une des anciennes merveilles du monde, la première synagogue qui a été construite par Moïse, ou encore le puits où ce même Moïse, bébé, a été récupéré par la fille du pharaon, ou la grotte où se seraient réfugiés Marie, Joseph puis Baby Jesus dans leur fuite pour échapper aux Romains. Comme beaucoup de Québécois, je suis pas vraiment pratiquant, en fait. Puis depuis notre lointain Québec, les histoires de la Bible, c'est rien de plus que des histoires, finalement. Mais ici, pour les chrétiens qui vivent au Caire, c'est des monuments qui sont visibles depuis le balcon, qu'on peut toucher en étirant le bras, qui ont été construits par leurs ancêtres. Le concept de la foi, ça devient comme tout d'un coup quelque chose de super tangible, puis dont l'importance dans leur quotidien des gens qui vivent ici, ça devient tout d'un coup très, très compréhensible. Tu sais, comme... Je me dis que c'est finalement, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur.
Ben, mais loin du cœur, t'as dit?
Ouais. Loin du cœur.
Je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'au Québec, t'as l'aspect de... Tu sais, dans chaque village, il y a son église qui, des fois, elle est... c'en est dégueu à quel point c'est riche quand tu compares aux villages qui étaient aux alentours. Fait que le symbole religieux est comme pas le même à ce moment-là, tu sais. C'est
totalement différent. Mais c'est sûr, c'est pas la même non plus. C'est pas la même église, là, sont protestants, mais...
Mm-hmm. Mais l'idée que la foi ici, justement, c'est... on sent la révolution tranquille, on sent l'oppression qu'on a, de laquelle le peuple a voulu se défaire. Tu sais. Parce ça. Que tu dis comment ça que Saint-Edmond, que genre 7 maisons, a une Christie d'église, que personne n'a une maison qui arrive à moitié de cette bâtisse-là. Tu sais.
Exactement. Mais tu sais, ici au Caire, les chrétiens, ça représente juste 20% de la population du Caire. La majorité du peuple sont de confession musulmane. Puis la prière au Caire, c'est d'ailleurs une des expériences les plus marquantes de mon séjour jusqu'à maintenant. Parce que 6 fois par jour, le Caire en entier résonne au son des voix qui s'unissent pour la prière. Pour vous donner une idée de l'intensité du moment, là, il y a dans Choubra seulement, Choubra c'est un petit quartier du Caire, il y a plus d'habitants dans ce simple petit quartier-là que dans tout le Québec. On parle au total de plus de 17 millions d'habitants pour la ville du Caire en entier. Donc, quand tous ces gens se regroupent là ensemble pour la prière 6 fois par jour, ça n'a rien envie aux partisans du Canadien au centre.
Je m'oppose.
Être témoin d'une dévotion comme ça à leurs convictions et à leurs croyances, ça donne une perspective super intéressante sur nos propres convictions québécoises à nous. Où dans tout le confort qu'on possède, il y a très peu de causes qui nous unissent de la même façon, puis jamais avec autant de ferveur puis de dévouement qu'eux y en ont. Mais c'est le week-end dernier, pendant un safari dans le désert de Fayoum, que j'ai compris ce qui était réellement différent entre ici puis la maison. Debout au milieu du désert, sur le bord d'un plateau, à 100 de kilomètres de l'être humain le plus proche, en dehors de notre petit groupe évidemment, j'ai réalisé, en regardant les enfants qui s'amusaient à acheter des roches en bas de la falaise, la lenteur tranquille du quotidien des gens qui habitent ici. Dans notre Amérique capitaliste, on est souvent littéralement bombardé de publicités, de nouveautés, de stratégies de mise en marché, de vendeurs porte-à-porte, de fast-food. Puis on butine d'un produit à l'autre, d'une publicité à l'autre, sans arrêt. L'image, il faut que ça soit plus belle, la télé, il faut que ça soit plus grande, la voiture, il faut que ça soit plus performante. Tout ce qui attire l'intérêt des gens, ça se transforme en une machine commerciale. Finalement, le roi Midas, c'était peut-être pas grec, mais il était peut-être plutôt américain. On a juste à penser au monde de la collection des jeux vidéo, rétro, par exemple. Les jeux qui étaient disponibles pour 5$ il y a quelques années, ils ont vu leur prix quadruplé aux mains de ceux qui n'ont absolument aucun intérêt pour la chose, en dehors de se faire un petit peu de profit sur le dos des fans. Ou encore à l'annonce récente justement des nouvelles consoles de Sony puis Microsoft qui ont rapidement fait le ménage à leur linge sale sur les médias sociaux. On assiste à une bataille pour la pseudo-qualité du contenant au détriment de la qualité du contenu. Dans une industrie qui devrait être construite sur la qualité des jeux, on se retrouve pendu au bec puis aux tweets de 2 entreprises en guerre pour nous vendre le plus beau boîtier en plastique, finalement. On est rendu à payer pour du fast-food qui nous rend obèse puis fatigué pour ensuite utiliser les ascenseurs pour pas devoir grimper les 3 marches qui nous séparent de nos appartements. Puis une fois à maison, on s'achète des fucking escaliers d'exercice pour pouvoir perdre du poids en regardant quelqu'un cuisiner de la vraie nourriture à TV. Mais dans le fond, tout ça, ça revient juste à une question de temps puis de choix. Parce que le fast-food, ça nous permet de luncher rapidement entre 2 rendez-vous. L'ascenseur, ça nous fait arriver plus vite au bureau. Puis l'escalier d'exercice, ça nous permet de choisir exactement quand monter les escaliers. Le temps, c'est devenu une maladie. Puis comme l'argent, c'est de l'argent, mais on se rend toutes malades. Mais au fond, c'est peut-être inévitable parce qu'au final, le temps, il va tout finir par nous avoir de toute façon. Mais le temps ici, pour vrai, c'est vraiment différent. Les panneaux publicitaires... Ils accompagnent quand même les automobilistes à chaque matin. Les H&M, les Jack & Jones, les Starbucks, les Domino's, les McDo, ça fait aussi partie du décor. Mais leur présence, ça ressemble plutôt à la méchante sorcière qui essaie d'attirer les enfants en dehors du village avec ses sucreries, contrairement à l'idole omniprésente qui gère nos vies en Amérique. Là. Les gens ici, ils se contentent de moins. La vie est plus lente, est plus posée. Fait qu'assis à même le sol, au milieu du désert, en train de boire le thé avec nos guides, en plein milieu du désert de Fayoum, j'ai comme eu l'impression d'avoir énormément de temps, puis absolument... aucun choix à faire. Puis, Inch'Allah, pour le reste, tout le reste peut bien attendre à demain.
Hein, c'est toute une transition, hein, parlant de temps. Aujourd'hui, dans l'univers de Divan Quest, on dirait que j'ai comme le goût de ralentir mon débit puis de prendre ça zen.
Rapidement.
Ah, OK. 19 septembre. Donc, ben oui, je commence ça quand même tard, en 1982. 1982, dans un message qui a été posté à 11h44 AM sur les bulletin boards du département d'informatique de l'Université de Carnegie Mellon, le professeur Scott Fallman, ouais, propose d'utiliser les caractères 2-fermer la parenthèse pour indiquer une blague sur les bulletin boards. Il propose aussi d'utiliser les caractères 2-ouvrir la parenthèse pour suggérer la tristesse. L'histoire ne dit pas s'il a aussi proposé l'emoji petit caca souriant J'avance en 1989. En 1989, environ 100 hôpitaux qui utilisaient les logiciels de Shared Medical System ont vu leur système entrer dans une boucle infinie quand la date a été entrée. Il s'était alors écoulé 32 768 jours depuis le 1er janvier 1900, ce qui aura causé un dépassement de la limite mémoire attribuée à la date. La boucle de l'an 2000 n'a rien inventé. Il n'est pas arrivé non plus.
Petite copieur.
J'avance en 1991, découverte d'Ozzy, l'homme des glaces, un humain naturellement momifié, comme retrouvé congelé et déshydraté, retrouvé par hasard à 3210 mètres d'altitude en Italie. Il aurait à ce jour environ 6500 ans. Puis après ça, on me dit que mon steak qui a passé 6 mois dans le congélateur ne peut pas être mangé. Pff, n'importe quoi. J'avance en 1995, qui était la première fois où on célébrait la maintenant très célèbre journée « Parlons comme des pirates ».
Yes! Do what you want, 'cause a pirate is free.
You are a pirate. Il semblerait que l'idée soit venue à John Bauer et Mark Summers en jouant au racquetball, mais que la date n'était pas propice à ce moment-là pour une autre fête. Donc, ils ont décidé que le 19 septembre serait cette date-là. C'était l'anniversaire de l'ex-femme de Summers, la seule date dont il était certain de se rappeler. Donc, à tout le monde, ben, passez une bonne journée de parler comme un pirate. Là. Bon Talk Like a Pirate Day, R.
R.
On a raté tellement une belle occasion de faire le pod au complet en parlant pirate.
J'ai pas la fortitude.
Non, moi non plus. Mais un épisode thématique aurait pu être approprié.
Écoute, la prochaine fois qu'un pod tombe cette journée-là, c'est genre dans 4 ans.
Dans 5 ans, je vais voilà. J'avance en 2012 pour un petit coup de gueule. Adoption de la résolution numéro 2068 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui condamne le recrutement et l'emploi des enfants dans les conflits armés ainsi que les sévices qu'ils subissent lors des conflits. Hein? 2012. Pas fucking 1812, là. Pas 1912. 2012. Hey, ça doit bien avoir... ça doit avoir été adopté à l'unanimité, ça, là. Ben non! OK, il n'y avait personne contre, mais il y a eu 4 abstentions, tabarnak! 2012.
Bon, on s'entend, là, tu t'en doutes que ça passera pas. Ben, que je veux dire que ça va être accepté, je veux dire, excuse. Puis, tu te dis, je vais faire un statement, je vais refuser de voter. T'es un hostie de malade. C'était mon tour.
C'est ça.
Happy birthday to you.
J'espère au moins avoir quelque chose pour me dépomper dans mes naissances. Ah, 1928. Naissance de celui qui n'avait pas peur de porter des collants gris avec une cape bleue et un casque quasiment mauve. Là.
Adam West?
Oui, monsieur.
Adam West.
Je parle du très célèbre Adam West. Monsieur West fête aujourd'hui son 88e anniversaire, nom d'un petit vieux en marchette qui déboule les escaliers, Batman.
Puis pour un film d'ailleurs, un film d'animation qui va reprendre les acteurs les vieilles séries.
Je crois que oui.
Oui, exact. C'est un film animé qui va reprendre les personnages originaux, donc les costumes.
Avec les voix aussi. Là,
en plein ça. De oui, ceux qui sont disponibles.
C'est vrai, il y avait eu une promo avec Adam West et Burt Ward qui faisait justement l'annonce de ça.
Puis si vous êtes genre des fans de la fesse gauche là, des vieux Batman, il y a un petit documentaire du nom de Return to the Batcave. Qui est super intéressant, qui est une version, dans le fond, un peu romancée, avec la narration des personnes eux-mêmes, là, de Adam West et de Burt Ward, Batman et Robin, sur comment que le show est arrivé à être produit, puis sur, bref, toute l'histoire réelle derrière le show. Super intéressant, pour moi qui n'est même pas un fan de cette époque-là, là, mais ça donne des perspectives.
Voilà. J'avance en 1967, naissance d'un acteur assez polyvalent, mais qu'on connaît surtout pour un de ses rôles, le rôle d'un scientifique canadien un peu feluette, du nom de Brad Spitfire. On souhaite un bon anniversaire à M. Stéphane Crête, qui fête son 49e anniversaire. Pour vrai, il y avait d'autres mondes, là, mais après Brad puis Batman, tout ce que j'avais envie de faire, c'est de retourner écouter des Family Guy, hein, pour le fameux Mère West, et des Dans une galaxie près de chez vous. Hein. Alors, voilà. Je finis ça sur notre maintenant traditionnel prénom du jour, Go Eri. Mais tout le monde s'en fout parce que c'est la fête de Adam West.
Let's go. But inconspicuously. Through the window. Blades of Steel.
Moi, cette semaine, un peu en écho distant à la réflexion que Gia avait faite sur la hype. En fait, il y a des jeux, des fois, que j'entends parler. Avant la sortie, les sites de nouvelles en parlent tout le temps. Puis ils sortent sur une plateforme, puis tout le monde trippe, les reviews sont super bonnes, puis là, ça arrête plus. Puis là, ils sortent sur une plateforme que moi, j'ai. Puis autant que le jeu a l'air d'être dans mes cordes, je suis juste tanné d'en entendre parler, là. Fait que je joue pas. Le même comportement aussi arrive un peu avec des films, là. À un moment donné, nourrir de la hype, t'as l'impression que t'as vu tout ce que ce produit-là avait à offrir, puis t'as pas le goût d'y donner vraiment plus de ton temps. Bon.
Je suis tellement d'accord avec tout ce que tu dis présentement.
puis là, plus tard, ben... Je finis par acheter le jeu parce que, bah, tu sais, il est en spécial sur Steam ou, tu sais, je pogne un deal quelconque. Puis là, ça dort sur une tablette ou justement dans ma librairie Steam. Puis là, encore plus tard, ben, je finis par dire ouais, il paraît que c'était bon ça. Puis là, je joue. Puis là, je me dis non, mais j'ai-tu été bête pas jouer avant ça? fait que c'est pour ça que cette semaine, je vais vous parler de Axiom Verge. En plus de ce que je viens de décrire, on pourrait penser qu'un jeu avec le mot « verge » dedans, hein, attirerait immédiatement mon attention. Mais ça a pris au-dessus d'un an avant que je décide finalement d'y jouer. Fait que je me sens un petit peu comme Jeff qui parle de Witcher. On est à peu près dans le même timetable, un peu plus
tard. Oui, c'est ça, dans la même période. Là.
Oui, attends, c'est ça.
Là, ça a coupé. Moi, j'ai compris que ça t'a pris un an avant de jouer après la verge. J'ai pas...
Oui. Okay. Bon, j'avais au moins plus qu'un an quand ça a commencé. Ouais. Fait que, le jeu est sorti le 31 mars 2015. Et il est maintenant disponible à peu près sur toutes. PlayStation 4, Wii U, Xbox One, PlayStation Vita, Windows, Linux, macOS, mais pas sur les frigidaires LG à écran tactile qu'on a déjà parlé, malheureusement.
Puis ma tondeuse?
Faudrait que je vérifie.
Okay.
Non. Axiom Verge, c'est un Metroidvania, c'est-à-dire un jeu de plateforme 2D avec un focus sur l'exploration. Développé et publié par Thomas App Games, mais on pourrait aussi simplement dire par Thomas App. Parce que tout ça, c'est le travail d'un seul Thomas App. Programmation, design, graphique, musique et histoire. Donc, je lève mon chapeau à cet unique Thomas App parce que c'est tout un jeu qu'il nous offre. Premièrement, Axiom Verge, c'est bien sûr un Metroidvania avec un look rétro, pixelleux, là, qui joue entre le 8 et le 16 bits, mais qui n'essaye pas de reproduire une console rétro en particulier comme Shovel Knight le fait avec le NES, par exemple. On incarne Trace, un scientifique qui est victime d'un accident lors d'une expérience, puis qui se réveille dans une espèce d'œuf mécanique avec aucune idée de ce qui se passe. On est principalement en contact avec une créature, qui habite dans ce monde-là, une espèce de tête féminine énorme câblée à un mur avec des allures biomécaniques très, très Geiger-esque. Pour ceux qui seraient moins familiers avec Geiger, l'univers de Alien, par exemple. Puis cette créature-là est notre principal interlocuteur au cours de l'histoire. J'irai pas plus loin dans ma description de l'histoire. Parce que sans être la meilleure histoire que j'ai vue dans un jeu, là, c'est solide et c'est surtout plein de revirements. Puis je voudrais pas gâcher ça. Fait que, arrêtez de pousser, j'en dis pas plus.
Oh.
Merci. Fait que quand on commence Axiom Verge, ça file un peu trop familier. C'est Metroid. Les save points, le gros œuf comme celui dans lequel on commence, là, opèrent comme les saves dans Metroid. La minimap est identique. Le contrôle est aussi précis. Le saut est un peu plus précis parce qu'on saute moins haut, mais bon, tu sais, on reconnaît. Là. Ça file là, un petit peu réchauffé. Mais c'est pas très long avant que les environnements deviennent de plus en plus weird. Là. En termes d'atmosphère, juste là, ce jeu-là, out Metroid, Metroid. Et il réussit à être plus weird que Metroid se vante à quelque part d'être weird. C'est bien connu que la série Metroid est inspirée de Aliens. Axiom Verge essaye d'être encore plus bio-mecha weird gory que Aliens par bout. Puis j'ai jamais ressenti une atmosphère aussi inquiétante dans un jeu 8-16 bits que c'est le cas avec Axiom Verge. C'est sûr que j'en entends défendre Metroid en disant que c'est un jeu de Nintendo, mais peu importe, là, sur le plan de l'atmosphère, c'est vraiment une coche au-dessus. Puis sur le plan mécanique, ben on sait tout à quoi s'attendre. En progressant, le jeu va nous donner des nouveaux items / power-up qui vont nous permettre de pouvoir rejoindre des endroits qu'on pouvait pas avant, puis ça va nous permettre de progresser dans d'autres environnements. Encore une fois, Axiom Verge réussit à nous surprendre même avec ça. En évitant de juste nous offrir les classiques double jump ou le gun qui ouvre des portes que tu pouvais pas avant, sans trop spoiler, une des mécaniques, c'est que dans les mondes, il y a des glitches qui ressemblent à ce que ton NES fait là, quand il bug, puis qu'il y a trop de poussière dans la cassette, puis les graphiques veillent tout croche. Mais t'as un gun qui te permet de corriger les glitches, mais qui peut avoir des effets variables sur différentes choses. Par exemple, il y a une place où t'as une espèce de champignon qui émet des bulles, qui flotte dans les airs. Si tu utilise ce power-up-là sur les bulles, ben, ils vont devenir des artefacts buggés, style NES, mais soudainement, tu peux grimper dessus sans qu'ils brisent, puis ça te permet d'aller rejoindre des environnements plus élevés. Il y a un power-up aussi qui est un petit drone ou une drone, comme dirait Jeff, que tu contrôles à distance.
Comment?
un drone que tu contrôles à distance qui peut se faufiler dans des endroits tout petits. Mais souvent, ils vont te forcer à l'utiliser de façon vraiment inventive parce que tu peux le tirer. Fait qu'il y a une trajectoire balistique, fait que tu peux l'envoyer à certains endroits que tu vas rejoindre toi-même en sautant dans les airs, etc. Puis c'est là aussi que le jeu devient vraiment impressionnant parce que c'est facile de donner un double jump, un double saut à un joueur. Puis là, toutes les plateformes trop haut, ben tu vas juste aller te sauter dessus, puis tu vas y aller, puis bravo, tu as réussi à avancer. T'sais. C'est pas un puzzle.
Mon Dieu, t'as l'air amer. Bravo.
Bravo, Chris. Mais c'est pas un puzzle, c'est juste une façon de contrôler ta progression. Mais dans Axiom Verge, chaque power-up devient une nouvelle façon d'explorer les environnements, puis de te demander « Hey, je peux-tu aller là en faisant telle ou telle affaire weird? » Puis des fois, tu te penses vraiment futé, là. T'es super clever, là. Puis tu penses que tu vas trouver un secret dans le jeu, là. Puis c'est le chemin normal que tu dois prendre pour avancer. Fait qu'évidemment, faut aimer ce type d'exploration-là parce que le jeu l'exige. Puis encore une fois, sur le sujet de la découverte, je pense que c'est le premier Metroidvania que l'exploration est toujours aussi satisfaisante. J'explique. Dans Metroid, en dehors des trucs que tu dois absolument trouver, les bonus additionnels que tu vas trouver là, quand tu explores, c'est plus de vie, plus de missiles. Puis c'est pas mal ça. Parce que tout le reste est nécessaire à ta progression. Puis ça va s'en tenir à ça. Tu peux pas les manquer, donc ils peuvent pas les cacher tant que ça. Fait que c'est toujours le fun de pogner plus de vie, mais bon, quand même. Hein? Les Castlevania ont plus de marge de manœuvre là-dessus, sur ce qu'ils peuvent te faire découvrir, parce que ben, t'as des armures, t'as des sorts, t'as des armes, mais des fois, t'y trouves plus tard que t'aurais dû, fait que c'est un peu inutile. Puis ils font exprès, encore une fois, de s'assurer que ça a un impact limité sur ce qui t'arrive. Non, évidemment, Axiom Verge t'empêchera pas de progresser, mais à toutes les fois que j'ai trouvé un chemin qui était weird à explorer, là, puis il y en a beaucoup, le jeu donne des power-ups qui valent la peine. Évidemment, il y a les boosts de vie ou il y a les fractions de boosts de vie, là, comme les morceaux de cœur dans Zelda, mais il y a des boosts permanents à ton dégât sur toutes tes armes, des boosts de portée aux armes pour lesquelles c'est applicable, puis carrément des nouvelles armes.
La moitié des guns du jeu sont optionnels, mais sont vraiment utiles.
C'est pas juste comme avoir une autre épée qui fait plus de dégâts dans Castlevania, là. C'est des patterns de tir qui sont complètement différents. Fait que les récompenses d'exploration sont malades, puis ça donne le goût de revisiter les environnements quand on a des nouveaux power-ups. En plus de ça, il y a des choses qu'on peut trouver aussi qui bâtissent l'univers, qui construisent le lore. Il y a des notes. Puis vu la quantité de mystères qui entourent le jeu, l'histoire du jeu, c'est vraiment intéressant de découvrir ces bribes d'informations-là. Puis d'ailleurs, sur la carte, on peut mettre des markers pour se rappeler de retourner visiter des endroits si on marque quelque chose qui était là, qu'on se doute qu'on peut pas y aller présentement puis qu'on va pouvoir le faire plus tard. Fait que je vous suggère de le faire là, parce que la carte est assez grande et vers la fin du jeu, quand on vient d'acquérir clairement le prochain outil qui nous permet de naviguer, puis là, on cherche où aller, si on n'a pas d'idée où chercher, ça commence à faire beaucoup de territoire à couvrir. Donc, utilisez les petits markers si vous voulez pas finir à checker un walkthrough. Bref. Du côté des boss, il y en a quelques-uns qui se démarquent et demandent de comprendre comment les battre. Puis c'est de loin les meilleurs, là. Ça conserve le côté exploration du jeu, même dans le combat. Fait que sinon, il y en a d'autres qui me font un peu trop penser aux Castlevania là, qui sont sous la formule Metroidvania. Où est-ce que si t'as les bonnes armes, tu peux les cheeser, là. C'est-à-dire que tu peux trouver une façon de pas trop te forcer puis de les tuer juste avec le pattern de ton arme. Puis comme Castlevania, ben ça nuit pas tellement au jeu, là. On fait juste pas y penser, ben c'est pas quelque chose qui reste avec nous quand on repense à cette expérience-là. Puis on peut se trouver un petit peu clever pareil quand on pogne l'arme qui nous permet de rester caché dans un coin puis de péter l'ennemi. Bon.
On aime ça. Hein,
ouais, c'est ça. Mais bref, c'est pas des choses qui restent avec nous quand on repense au jeu ou quand on rejoue. Puis j'ai parlé de l'atmosphère, là, puis un peu de l'histoire, mais l'univers puis le lore sont vraiment bien construits. Encore une fois, gros focus sur l'exploration.
Mais ça, c'est cool quand même quand tu penses qu'un jeu qui est tellement inspiré d'autres jeux, c'est pas juste comme pour reprendre les mécaniques, c'est qu'ils prennent la peine quand même de mettre une belle histoire puis beaucoup de lore autour d'eux.
Il y avait un bon point de départ en parlant de Metroid qui, en peu de mots, te présente des univers puis te fait comprendre ce qui se passe puis te montre des détails de par ce qui se passe alentour de toi. T'as rarement un petit peu la formule Half-Life, si on veut, là, où est-ce que t'es témoin de choses ou indirectement témoin de choses, puis ça présente l'histoire. Ils vont un petit peu plus loin de ça, par contre. Là. Mais justement, comme j'ai parlé, il y a les notes cachées qui nous donnent de l'information et sur notre personnage et sur le monde dans lequel on est présentement. Il y a même des notes dans des langages de ce monde weird-là qu'on peut traduire, là c'est un peu weird, via un système de cheat code qui est intégré à la fiction du jeu. C'est le fait que, bref, sans rentrer dans le détail, on trouve un objet qui nous permet d'accéder à une espèce de terminal virtuel qui nous permet de rentrer des codes puis qui affecte la réalité qui nous entoure. Donc, il nous permet de faire des... Bref, un cheat code qui nous permet de traduire. Puis, il y en a d'autres, mais autant que le jeu nous les introduit, il y en a beaucoup qui sont à découvrir. Certains dans le jeu, certains évidemment, bon, à travers des cheats plus traditionnels, mais la plupart sont intégrés à l'environnement et des fois même à l'interface du jeu. Bref, encore plus d'exploration. Puis ça fait justement que toutes ces choses-là, ça rend tes découvertes encore plus spéciales parce que tu as l'impression que tu n'es pas supposé de pouvoir voir ces textes-là que tu traduis. Et bien sûr, la musique. C'est pas assez que Monsieur App nous donne un jeu bien construit avec beaucoup de contenu. Il compose lui-même toute la musique et ça mixe la chip music, le synthwave, le ambient rock, des fois avec des vocales, des fois avec des sons stridents, pas forcément si agréables pour les oreilles, mais ça construit probablement encore plus que le visuel, l'atmosphère de ce monde-là. Le seul mot que j'ai en tête, c'est unsettling. C'est déconcertant. Ben évidemment, fidèle à mon habitude, je vous en donne quelques extraits. Si ça vous intéresse pas, sautez 2 minutes dans le pod, OK? Merci de m'indulger quand je l'écoutais.
Ah non, mais c'est de mon côté, en tout cas, c'est pas très difficile.
Puis ça a été...
Non, mais je suis vendu, là. Mais, y a-t-il une trame sonore, tu sais?
Oui, en fait, il est... Ben, first, si vous êtes abonné à Spotify, es-tu à mon grand plaisir, parce que j'ai écouté ça toute la journée à job. Puis ce que vous venez d'entendre, c'est vraiment une mince parcelle, parce que c'est vraiment... Quand c'est le temps des boss fights, heart pounding, vraiment des tunes excitantes, un peu comme le dernier extrait qu'on a eu... Quand c'est le temps de battre l'atmosphère, là, j'ai pas été dans le plus weird. Le deuxième morceau que j'ai fait entendre, qui est le plus long, j'ai pas pris les bouts les plus weird parce que c'est pas forcément toujours intéressant, mais tu mixes ça au gameplay du jeu, c'est... Il a gagné plusieurs fois le meilleur soundtrack de 2015. Fuck, le gars, il a fait le jeu du début à la fin. Il a composé ça. Le gars serait juste compositeur, OK, on en parlerait. Il calé qu'il a fait le jeu au complet. Fou. J'imagine en fait que le soundtrack n'a pas le même impact si on n'a pas joué au jeu, mais je vous garantis que ça bâtit une atmosphère incroyable. J'écoutais le soundtrack pendant que j'écrivais, bref, ce que je vous présente aujourd'hui, puis j'en étais excité, j'avais le goût de remettre le jeu et d'aller jouer là.
Ben juste, tout, moi j'ai pas joué au jeu, tu me l'as décrit, j'ai vu des images, tu sais, puis j'écoute le soundtrack, puis c'est sûr que ça te met dedans. Là. Genre, je sens le feel, le côté, ben, comme tu as dit, le biomécanique, Alien, puis tout ça, là, mm-hmm. C'est là, là.
Ah oui, c'est de la musique pour programmer, ça.
on s'échange souvent, moi puis Jeff, des soundtracks de programmation. Ben ça, puis en plus, un des commentaires de Thomas App, par rapport au... il y a des commentaires qui louangeaient beaucoup la cohésion du package du jeu. Puis il disait justement que c'est un des avantages forcément d'avoir tout fait, parce qu'il savait exactement le feeling qu'il voulait aller chercher puis offrir. Fait qu'en faisant le visuel, qui est très plus que satisfaisant avec des boss qui sont souvent énormes. Puis en joignant la musique avec ça, c'est clair qu'il y a un parfait contrôle. Puis je pense que, encore une fois, je vais le dire, la preuve est dans le pudding. Le gars peut prouver ce qu'il dit parce qu'il a son jeu pour dire « check ». C'est comme ça que tu crées un produit cohérent avec une seule personne en contrôlant absolument tout ce qui est
là. C'est ce que j'aime. Quand quelqu'un peut faire « non, mais gars, je l'ai fait, là, ta gueule ».
Ouais, ça, c'est facile de dire « bah si je contrôle tout, ça va être mieux fait ». Non, non, ah. Regarde, je l'ai fait, là, ça donne ça. L'ambiance est irréprochable. Puis tout ça, bref, c'est un jeu qui prend environ 10 heures à finir,
ah.
Que j'ai fait en 3 sessions de jeu. Puis pour ceux qui connaissent mes habitudes, c'est fucking rare que je tombe dans un jeu comme ça. Puis j'ai le goût et je vais y retourner pour découvrir le stock qui me manque. Parce que j'ai fini le jeu avec 90% de la carte et 72% des items. Bon, pour ceux qui connaissent les Metroidvania, spécifiquement les jeux de la série Metroid, c'est assez typique, là. Mais je sens en plus que les items que j'ai pas encore découverts vont m'en dire plus sur le lore du jeu. Fait que c'est pas juste comme gagner de la vie de plus, là. Fait que même si le jeu est fini, l'exploration après la fin reste plus intéressante que dans beaucoup, beaucoup d'autres jeux. Fait que personnellement, là, j'ai vraiment de la difficulté à trouver des défauts à ce jeu-là. À part que, bon, certains boss auraient pu être mieux construits. La musique loupe pas parfaitement, ce qui fait que quand une track finit, souvent, il y a un vide, parce que c'est vraiment les mêmes tracks que tu trouves sur le soundtrack, là. Fait que considérant à quel point la musique est solide, des fois, ça crée un creux. Puis à la limite, peut-être que ça ne nuit pas à l'atmosphère, dans le fond. Mais bref, c'est quelque chose que j'ai remarqué, que j'étais comme « Ah, oh, il y a un vide, genre dans le track audio. » Puis c'est drôle, vraiment, en regardant les reviews, là, on dirait que la hype a beaucoup, beaucoup affecté le jeu. Les critiques, en général, donnaient autour de 7 ou 8 sur 10, ce qui est très bien, là. Mais le jeu est sorti la semaine dernière sur la Wii U. Ben, juste la semaine dernière, peut-être il y a 2 semaines maintenant, excusez-moi. Un an plus tard que sur les autres plateformes, à part la Vita. Puis les reviews de la version Wii U sont beaucoup plus élevés. Présentement, 89% sur Metacritic. Fait que pourtant, les autres reviews reprochaient au jeu de trop calquer Metroid. Puis quand on arrive sur la seule plateforme de Nintendo du lot, personne n'y reproche ça. Puis louange même que le jeu n'a pas peur d'apporter des nouvelles idées à une formule bien établie. Fait que bon, peut-être que pour ces reviewers-là, comme pour moi, le jeu est arrivé au bon moment. Ou que l'absence d'attente et de hype nous a permis de boire tout ce que le jeu avait à nous offrir.
Ou que les joueurs de jeux Nintendo sont tellement habitués du même jeu tout le temps que si ça leur prend, c'est correct, on aime ça pareil.
Ou ont vraiment soif d'un autre Metroid.
Ouais, c'est peut-être aussi.
mais bref, ce jeu-là, c'est une place, sans aucune difficulté, une place dans mes jeux favoris. Puis c'est pour ça que je donne 4 pattes de divan, plus 2 pattes tentaculaires qui apparaissent juste quand t'es plein de vie.
Oh.
Ceux qui ont joué vont comprendre.
Donc, pour trouver nos derniers épisodes, c'est sur le divanquest.com pour du feedback du hate mail. On va sur Twitter au twitter.com/divanquest, sur Facebook au facebook.com/divanquest ou par courriel au divanquest@gmail.com. Le podcast est disponible avec un paquet d'autres podcasts québécois sur le rzoweb.com, dans la playlist de Pod Québec au podquebec.com. On le retrouve aussi sur Balado Québec au baladoquebec.ca. Hein, allez nous trouver, cliquez les 5 étoiles, on veut remonter dans leur liste. On peut aussi aller sur iTunes. Hein. On vous rappelle pourquoi on est fatigant avec iTunes, même si c'est une plateforme qui n'est pas tout le temps appréciée. C'est une bonne plateforme qui est beaucoup consultée. Quand vous nous donnez un bon review ou vous cliquez 5 petites étoiles, ça fait qu'on est mieux classé.
La seule chose, par contre, c'est que si vous voulez écouter un podcast qui vient de iTunes sur votre iPhone, ben, ça vous prend des écouteurs sans fil à cette
heure. Oui, il y a ça. Hein, parce que là, maintenant, on sait, un trou d'écouteurs, c'est exclusif Android. Donc, ça nous aide à avoir plus de monde qui vont nous découvrir, qui écouteront sans fil notre podcast sur leur écouteur. Et ça, ben, on aime ça, avoir plus de monde qui nous écoute. D'ici là...
Game on!
Game on!